Making Waves Avignon présente.
À la jeunesse, le micro!
En direct du festival d'Avignon.
Et les micros, ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à nous! À la jeunesse, le micro!
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, dans ce nouvel épisode de À la jeunesse les micros, on était censé vous présenter une émission sur l'amour. Mais en la préparant ce matin, on s'est vite confronté à un problème. On ne savait pas ce que ça voulait dire, ni comment le dire. Pourtant, la nuit dernière, dans le dortoir, tout le monde avait quelque chose à raconter à ce sujet. Alors ça va demander un petit effort d'imagination. On va essayer de reproduire les conditions d'hier soir. Il ferait plus frais, on se verrait moins, il serait 1h du matin, quelque part dans Avignon. À côté de nous, il y aurait cette soirée bruyante et tout le monde qui danse. Et nous tous, réunis ici, on décide de faire une pause. Fumer, une clope, trouver un truc à boire. On part faire un tour dans la cuisine pour voir qui d'autre est là. Et de nulle part, avec de parfaits inconnus, naît cette conversation. À la jeunesse, les micros, épisode 5, et l'amour dans tout ça, ça commence.
Et l'amour dans tout ça.
Et l'amour dans tout ça.
Bonsoir à tout le monde autour de cette table. Sephora Candy, Louise Brion, Noah Dimenza, Elsa Le Poivre, Bertie Gadeau et Clément Chaise.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
J'ai juste envie de commencer en vous demandant ce que c'est que votre définition de l'amour.
Je ne vais pas du tout commencer. Il ne faut pas me regarder. Regardez.
C'est très, très dur.
Pour moi, l'amour, c'est un truc qui se ressent vraiment dans le corps. C'est comme un petit soleil qui se met au niveau du cœur. Et tu le sens vraiment qui commence à rayonner quand tu vois les gens que t'aimes. Ça peut pas être forcément que les gens dont t'es amoureux, mais juste voir des potes ou des gens avec qui t'entends super bien. Ça me fait ça le matin. Genre, même quand j'arrive au taf, je suis contente, on s'entend trop bien, on voit les copains. Et là, t'as ce petit soleil qui commence à naître et ça te met de bonne humeur déjà toute la journée.
J'ai une définition beaucoup plus courte. Pour moi, l'amour, c'est un sentiment puissant, incontrôlable, qui peut être responsable du meilleur comme du pire.
L'amour, c'est j'ai l'impression que c'est un... Enfin, qui rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est l'élan vers l'autre, en fait. C'est un élan qui sort de soi, qui a besoin de sortir de soi, en fait. Qui a besoin de surgir et de se propulser, alors que ce soit amoureux ou autre chose. Mais c'est presque obligatoire, enfin, c'est nécessaire, c'est une nécessité absolue de le propulser, quoi, vers l'avant.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a deux trucs qui me parlent, c'est ce que tu dis, et le fait que tu aies parlé de pas nécessairement un amour romantique, ça m'a fait du bien immédiatement d'avoir ça à l'esprit, parce que je pense que plus je grandis et plus j'ai l'impression que c'est quelque chose qui circule, qui est effectivement de l'ordre de l'élan, de l'énergie, et qui n'est pas forcément qu'une histoire à deux, un peu claustrophobe, enfin, qui est vraiment quelque chose de l'ordre d'une affaire qui circule, qui roule bien. Et ça, c'est un truc que je peux ressentir avec la personne que j'aime, je ne vais pas aller plus loin, que j'aime, ou avec des amis proches, quand il y a des moments un peu qui sont très gracieux, où il y a de l'harmonie, où il y a vraiment quelque chose qui circule collectivement. Ces moments-là, j'adore, ou typiquement dans les moments où... On part pour le spectacle et qu'on est dans le van et qu'on rit ensemble, c'est vraiment de l'amour que je ressens. Et c'est une déclaration en public. Je t'aime ou...
L'amour, c'est un sujet un peu vague quand même. Bon, pour moi, l'amour, c'est super. Tu peux être avec quelqu'un qui te complète complètement ou à l'inverse, avec quelqu'un avec qui tu n'as absolument rien en commun. Mais bon, le truc est là, donc tu y vas. Après, moi, c'est peut-être un peu vieux jeu. Mon rêve amoureux à moi, enfin, c'est juste de fonder une famille et d'avoir des enfants et basta, c'est tout.
C'est beau.
Moi, j'aurais une définition, enfin, je ne sais pas si j'ai une définition de l'amour, mais je sais en tout cas que j'aime quelqu'un quand ça fait longtemps que je n'ai pas vu la personne et quand je la vois, que ça me fait énormément chaud au cœur, ça veut dire que j'aime la personne. Et c'est là, en fait, je ne me rends pas compte sur le moment que j'aime quelqu'un jusqu'à ce que ça fasse longtemps qu'on ne se soit pas vu et que la voir, ça me fait trop du bien.
Et alors, moi, j'ai une question, c'est que vous avez parlé d'élan, mais est-ce que vous savez ce que vous retrouvez chez la personne qui vous attire? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse dans cet élan?
Bah, moi, je crois que je fais quand même un petit distinguo entre le fait d'être attiré, le fait d'aimer. Dans mon esprit, c'est assez... ça se rejoint pas nécessairement et c'est deux choses assez différentes. J'ai l'impression que... Je sais pas ce que je retrouve... Ah, si, peut-être. Je sais pas ce que je... Oh. Je sais pas tellement ce que je retrouve chez l'autre, mais par contre, je sais que ce qui va me faire... Ce qui va cliquer, enfin, ce qui va faire... Ce qui va créer une accroche, c'est quand je sens que la personne, elle se montre vraiment. Je ne vais pas être quelqu'un qui est très attiré par le faux self ou par la représentation. C'est un truc, au contraire, qui va avoir tendance un peu à me crisper. Moi, j'aime bien aller vite. Elle l'aura remarqué. Aller vite dans des choses plus viscérales, plus intimes. C'est ça qui me... C'est ouais, la vulnérabilité qui m'accroche, je crois. Ce qui ne veut pas dire que je veux absolument une personne qui soit au bord du gouffre. Mais par contre, c'est de... Ce qui va créer une accroche, c'est de voir quelqu'un quand il est pas en show, enfin quand il est à nu, quoi.
Parce que ça donne confiance.
Ah fait. Bah oui. Et pour le coup, moi, typiquement, dans ma définition, si je puis dire, il y a pas d'amour, c'est pas de confiance. Ça vraiment, c'est, je pourrais pas dire que je suis amoureuse de quelqu'un dont j'ignore tout, en fait.
C'est aussi un moment quand on rencontre quelqu'un. Il y a la rencontre amoureuse aussi qui est. Un thème qui est quand même assez fou et c'est toujours des moments un peu fous de quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit waouh, cette personne-là, je pourrais. Il y a ce truc d'amour qui se produit en moi. Donc souvent, c'est ça, c'est souvent au premier regard où il y a des trucs qui se passent. Et ce truc-là aussi, c'est de se montrer directement aussi des petits moments où ça a créé des vraies rencontres de je me montre telle que je suis et c'est aussi pour ça que les autres nous plaisent aussi, j'ai l'impression, ce truc de vulnérabilité, de montrer une part de nous, qui on est sous un certain angle, mais un angle vrai, quand même.
Ben, je trouve, ou alors, enfin, parce que c'est pour ça que je dis que je fais vraiment un distinguo entre ce qui est de l'ordre de l'attirance et de la séduction, et de l'amour au sens où, enfin, justement, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus ce petit manège, enfin, qu'est-ce que... Ce qui n'est pas forcément péjoratif, j'adore la séduction, mais je fais bien le... Enfin, pour moi, il y a vraiment une nette différence.
Ce que j'aime bien dans la notion d'élan, quand je parlais d'élan, c'est le mouvement que ça crée, en fait. C'est-à-dire que quand on aime, quel que soit, ce soit un sentiment amoureux ou amical, ou l'amour de quand on n'a pas vu la nature depuis longtemps, qu'on se retrouve et qu'on voit un magnifique arbre, il peut y avoir une même pulsion, en fait. Et en fait, c'est le mouvement que ça crée qui fait qu'on se dit « je ne suis plus la même personne ». Depuis que j'ai rencontré cet être dans ma vie, enfin, parfois nos paysages affectifs ou intérieurs changent parce que un être ou un événement ou une situation nous a transformés. Ça, ce mouvement-là, il est, je le trouve toujours extrêmement positif, quelles que soient les épreuves qu'on traverse, de se dire la vie, elle est bien faite pour ça. C'est-à-dire que on est fabriqué avec ça et on avance comme ça. Mais c'est toujours en regard de l'extérieur et de ce que ça provoque et ce que ça produit chez soi.
Vous auriez un exemple? Justement, d'une personne qui vous a fait changer.
Oui, bah je vais vous citer parce que j'ai déjà quelques infos sur vous, mais je voudrais parler par exemple d'un jeune homme qui fait partie maintenant de ma vie, qui s'appelle Mamadou Diallo, et qui est un jeune Guinéen de Guinée-Conakry, et qui était un jeune mineur isolé dont je me suis occupée ça fait déjà 6 ans. Je suis sa marraine républicaine, et je l'aide, et il vient d'avoir son bac. Il a fait un bac commerce et il était en alternance à la boutique de la Comédie Française, qui a créé un poste aussi pour lui, qui a créé cette situation-là pour qu'il puisse passer son bac. Il l'a eu il y a quelques jours. Donc,
bravo.
Bah, voilà, Mamadou, c'est un jeune homme qui, je n'ai pas eu, après plusieurs épreuves, je n'ai pas eu la chance d'être maman moi-même. Je suis maman d'une autre manière avec les enfants qui constituent ma famille aujourd'hui. Je suis belle-mère, je suis marraine, je suis toutes sortes de choses, beaucoup d'enfants autour de moi. Mais Mamadou donc, fait partie maintenant d'un paysage maternel, amical, de confiance, donc un élan d'amour. Je veux dire, il m'appelle pour me dire qu'il a son bac, je pleure au téléphone. Voilà.
C'est beau.
Mais c'est marrant parce que moi, pendant très longtemps, le terme d'amour, il a tout de suite été associé à celui de romance. Alors que là, j'ai l'impression qu'on parle de plein d'autres formes d'amour. Alors du coup, ça vient de quoi, selon vous, ce truc-là?
Pour moi, en fait, de toute façon, l'amour, c'est le sentiment sur le moment. Et en fait, ça peut, comme tu disais tout à l'heure, c'est voir un arbre quand ça fait trop longtemps que tu n'en as pas vu. Enfin, moi, je suis arrivée ici, j'ai vu les paysages, je viens du 93. J'étais hyper contente quand on a vu les montagnes, quand on était dans le bus pour aller voir la pièce.
et ben ça m'a fait un bien fou. Et j'ai ressenti la même chose que quand je vois quelqu'un que j'aime énormément. Et ça, c'est juste, ça te remplit et tu peux rien y faire. Et c'est juste un truc très sur l'instantanéité. Et voilà, pour moi, c'est ça.
Mais je pense que justement, c'est dommage que l'amour romantique, il ait cette place-là qui soit aussi énorme dans les discours sur l'amour. Et c'est vrai que c'est un truc qui, dans les sociétés, est mis tellement, tellement, tellement en avant. Donc, quand tu regardes les films, les séries, c'est toujours un peu les mêmes types d'amour et c'est un peu ça qui fait marcher.
C'est-à-dire que la notion d'amour, elle fait du bien. En fait, ce qu'on décrit là, c'est le bien-être reçu. C'est-à-dire qu'on est dans un certain état et puis on vit une situation qui remplit quelque chose de très positif, de très doux. Après, l'amour, le sentiment amoureux, là où il est plus ambivalent, c'est qu'il peut aussi s'associer avec beaucoup de souffrance, la peur de perdre l'autre, la jalousie. En fait, on rentre sur d'autres sujets, c'est pas tout à fait la même chose. Mais l'amour avec un grand A, je dirais, ce dont on se parle, de l'élan vers l'autre, c'est plus large encore que l'envie de posséder, en fait. C'est toutes ces notions-là qui, après, mettent beaucoup de tension ou de douleur ou de peur de perdre ou de doute sur soi. Enfin bon, après, ça s'accompagne d'énormément de choses qui demandent la vie pour le comprendre et faire l'expérience de toutes sortes de situations pour avancer et progresser.
Et vous auriez des conseils, justement? C'est vrai que
je suis la doyenne de cette
exactement.
Alors, je propose que Elsa réfléchisse à ses conseils pendant quelques minutes et pendant ce temps-là, on va écouter la chronique de Gabrielle, jeune journaliste qui nous a écrit un texte. C'est à toi, Gabrielle.
À la jeunesse, les micros.
Les micros. Ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous.
En France, un mariage sur deux se conclut par un divorce au bout de 10 ans. Je répète, un mariage sur deux. Pourtant, être deux reste la norme. L'amour romantique prend tellement de place dans notre société que lorsqu'on se case, on s'éloigne de nos amis et de notre famille. « Ma chérie, je veux pas mourir avant de voir ton oncle se marier », me disait ma grand-mère. Elle attendait la grande histoire d'amour pour son fils, la femme qui lui donnerait envie de se poser. Pourtant, il était heureux, mon oncle. Mais ça, c'était inconcevable pour elle. Si on regarde un peu du côté des séries, c'est le même raisonnement. Après 10 saisons, les 5 personnages de Friends se séparent lorsque Monica et Chandler décident d'habiter ensemble. Comme si l'amitié était une salle d'attente, les années de colocation avec des amis devenus famille sont vécues comme une phase transitoire de la vie. On ne fait pas d'enfants avec ses amis, on ne se dédie pas corps et âme à eux. Pourtant, ces gens-là, ces amis, ils et elles ont pleuré avec eux. Ils se sont épaulés, écoutés. C'était eux en première ligne, tout au long de la série. Mais alors, pourquoi l'histoire d'amour balaye tout sur son passage ? Oui, pourquoi on base nos existences, nos choix professionnels, nos lieux de vie sur des relations qui ne durent pas, qui se brisent et qui nous brisent ? Alors qu'il y a nos amis, cachés dans un coin. C'est eux les vraies béquilles. Quand on trébuche, quand on a honte, quand le doute nous assaille, chérir ses amitiés, c'est ça la vraie révolution. Ces gens qui nous secourent, qui nous consolent, pourquoi ce n'est pas avec eux qu'on s'engage ? L'amour a des contours infinis. Alors pourquoi ce n'est pas pour la vie que l'on dit oui à ses amis ? Ne pas faire reposer tous ses besoins émotionnels sur une seule personne, c'est s'offrir la possibilité d'être plus stable, plus fort. Le couple ne mène pas toujours à la rupture, mais l'amitié, elle, quand elle peut fléchir ou se courber, cède rarement.
Merci Gabrielle. Envie de rebondir sur ça.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai des conseils, mais je vais rebondir sur la chronique de Gabrielle, justement, sur le... à l'âge que j'ai. Non, mais je peux me dire, je peux observer, je peux constater que ce qui est compliqué en amour, c'est quand on attend de l'autre notre bonheur. En fait, il faut gagner en autonomie, il faut gagner en liberté, en connaissance de soi, pour savoir exactement ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet d'avancer, comment un autre ou une autre vient, non pas compléter, mais ajouter. En fait, qu'une relation soit du plus et pas du... Alors, on a tous des manques, on est fabriqués, on a des histoires, on a des passés, on a des douleurs, des choses à... Mais je pense que d'envisager l'autre comme un pansement ou comme un... c'est forcément, ça se base sur de la douleur ou sur du... Et si l'autre est faillible, on peut lui en vouloir beaucoup, alors que ça n'est pas sa mission. Donc en fait, c'est faire porter à l'autre beaucoup trop de choses. Donc en fait, je dirais, c'est vraiment de se rencontrer, d'avancer dans le temps avec de plus en plus de connaissances de soi, d'autonomie, de liberté, et de savoir... rendre l'autre aussi heureux, ne pas seulement attendre qu'on nous rend heureux, mais que nous aussi, comment on peut rendre heureux quelqu'un, comment on peut sentir que l'autre, on lui fait du bien, et vice-versa. En fait, c'est d'avancer dans ce sens-là et de ne pas envisager la relation comme un pansement.
J'aimerais témoigner justement là-dessus. Alors en fait, il s'avère que j'ai eu qu'une seule grande relation de plus de 6 ans. J'ai 24 ans actuellement, donc un peu plus d'un quart de ma vie, et on a fini par se quitter, et j'avais beaucoup de problèmes de santé. Du coup, je suis allé me faire soigner à l'hôpital, et j'ai parlé avec une psychologue de la question du besoin, et en fait je lui ai dit: j'ai besoin d'être en couple. Et elle m'a dit: non, tu n'as pas besoin d'être en couple, tu as besoin de te sentir mieux, tu as besoin de te sentir aimé, mais c'est pas forcément un couple, une relation amoureuse qui va régler ces problèmes là Et on peut les trouver du coup ailleurs, ces réponses à ces besoins. Et justement, comme le disait la jeune journaliste, n'avoir qu'une seule personne sur qui compter, c'est pas possible en fait. Il y a une trop grosse charge mentale qui pèse sur cette personne et ça finit par éclater.
Oui, tu parles de besoins, mais c'est aussi en effet les peurs. En fait, on est perclus de peurs, et notamment sur le terrain affectif. Je veux dire, il peut y avoir des béances, et en effet, il faut avancer, se construire dans la vie en essayant de braver ces peurs-là, en fait, parce que ça vaut le coup. Mais voilà, avec toutes les portes de sortie possibles, et il y en a des multiples, parce qu'on parlait de la nature. Je veux dire, en fait, tout est autour de nous, tout est à portée de main, il faut juste le voir.
Et s'écouter, surtout.
Oui. Moi, je voudrais réagir, si je peux, sur ce que tu as dit, Clément, en fait, rebondir, parce que je comprends un peu ce que tu veux dire sur... l'impression de devoir être en couple, de devoir avoir quelqu'un dans sa vie. C'est vrai que moi, personnellement, depuis que j'ai genre 15 ans, je suis peut-être restée en tout 6 mois célibataire parce que j'enchaînais toujours les relations. J'ai pas eu des aussi longues relations que toi, mais j'avais toujours ce besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et j'étais incapable de vivre seule par moi-même parce que je pensais vraiment qu'il fallait que j'aie une paire, quelqu'un qui m'accompagne. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est très récemment que je me suis séparée de mon ex et j'ai réappris à vivre toute seule, à aimer la vie toute seule et justement à kiffer en voyant des arbres et des montagnes et tout ça, et plus besoin de le partager forcément avec quelqu'un et juste le prendre pour moi, prendre cette beauté de la vie pour moi. Et c'est vrai que en fait, quand tu réalises ça, c'est tellement un énorme pas de sortir de cette dépendance d'être en couple, d'aimer quelqu'un. Enfin, de toute façon, il y a plein de gens qui t'aiment et t'aiment beaucoup de gens de base.
Ça permet de choisir, en fait. C'est-à-dire que ça veut dire que si tu te tournes un moment vers quelqu'un, ce sera un vrai choix. Et ce ne sera pas simplement comme
pas
une béquille.
Oui, exactement.
Moi, je trouve ça super intéressant et important, la notion de choix, parce que je trouve qu'il y a toute une espèce d'imaginaire... autour de l'amour qui est très mystifié, très j'ai pas choisi et ça m'est tombé dessus. Et ce truc là j'avoue que c'est pas tellement ça qui m'a, enfin c'est pas trop mon imaginaire là dessus au contraire, j'ai l'impression après il y a des gens qui m'ont surpris, qui m'ont vraiment surpris à mon corps défendant, qui m'ont vraiment fini par me surprendre et m'émouvoir d'une façon qui fait que j'ai pas été en mesure de repousser longtemps ces personnes. Mais par contre, je trouve ça très important, effectivement, de se souvenir que qu'on a la possibilité de choisir notre partenaire et pas de forcément se laisser entraîner parce qu'on se sent choisi, regardé, mais enfin, qu'il y a quand même que tout ça aussi une affaire de décision, d'action. En fait, c'est ça qui me parle moins dans l'amour, qui serait quelque chose d'un état très passif et langoureux où on est là, on se laisse entraîner. Enfin. Pour moi, ça avait beaucoup à voir avec quand même l'action.
Je vais avoir plein de questions à te poser sur pile ce que tu viens de dire, mais ce sera juste après la chronique qu'ont réalisée Idriss et Miguel à l'école de Saint-Jean à Avignon qu'on va écouter.
En quelque sorte, l'amour, il est un peu censuré parce que personne n'en parle du coup. Sur les médias, on n'en parle pas souvent, en politique encore moins.
Je pense que les sentiments de chacun, ça n'a rien à faire en politique. Il faut être vraiment objectif. Il n'y a pas les sentiments qui viennent interférer dans le truc.
Ils parlent toujours de leur programme, l'économie, si, ça, si. Mais jamais des relations entre les humains. Jamais de l'amour et jamais de nos sentiments. Alors que les sentiments, je pense que c'est plus important que tout le reste.
Voilà. Je vois pas dans quelles circonstances ça peut aider un président de parler d'amour et en quoi ça peut avancer les besoins du pays ou quoi, genre ouais. Ça peut régler les soucis, genre de parler d'amour.
Mais en vrai, on devrait en parler quand même en politique parce que tous les politiciens, même s'ils pensent qu'ils n'ont aucun rapport avec l'amour, ils sont issus d'un amour.
C'est quoi le plus gros problème? Genre, on a un manque de pouvoir d'achat, il y a des crises qui arrivent, il y a plein de trucs à gérer en France. Ouais. Tu en parlais d'amour, c'est pas le moment.
Après, ça montrerait un président qui serait plus impliqué envers son peuple et qui prendrait plus de ses nouvelles, entre guillemets, tu vois. Qui serait plus...
Mais c'est des hypocrites, les politiciens.
Pas forcément.
Dans tous les cas, s'ils veulent être politiciens, c'est que normalement, ils ont un amour envers les Français.
Je sais pas, ça pourrait que nous réunir encore plus, nous, les Français, envers la politique, envers la patrie, envers ce qu'ils font, envers leur métier. Donc, ils ont forcément un amour d'une manière ou d'une autre.
Je suis pas d'accord. Il y en a, ils sont politiciens parce qu'ils détestent quelque chose en France.
La haine, c'est un peu une sorte d'amour. Donc en parler, ça pourrait être que bénéfique et nous aider à avancer dans cette société parce que là, suite aux nouvelles élections, beaucoup de conflits entre les Français, beaucoup de manifestations. Alors que parler d'amour, au contraire, ça pourrait nous faire faire bloc dans cette société, nous rassembler et avancer, faire face aux problèmes.
Et les micros, ils sont à qui?
Ils sont à nous.
Alors juste, je prends la parole 2 secondes parce que c'est hyper honteux. C'est incrusté à cette contre-soirée, Mariama Seydi.
Hi.
Que je n'ai pas présentée. Bonsoir Mariama.
J'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir.
Eh bien, on peut reprendre la conversation.
Et oui, donc tu avais des questions?
Exactement. Je voulais te contredire en fait. Alors, ce matin, on a eu une discussion qui était assez intéressante, mais l'être humain est un animal et on émet aussi des phéromones comme les animaux. Et c'est une des explications qui peut permettre de comprendre le fait que des fois, on ne sait pas pourquoi on est attiré par la personne. C'est quelque chose qu'on ne sent pas, que le cerveau sent, mais c'est tout. Et donc, finalement, on n'a pas tellement le choix.
Oui, mais ce n'est pas pareil. En fait, je pense que peut-être je fais un distinguo entre ce qui peut se passer chimiquement pour nous, ce qui se passe entre les corps des gens... de façon très souterraine et tout. Mmh. Et le fait d'acter, d'être en couple. Enfin, parce que du coup, vu qu'on parlait de. Après, on peut parler de l'amour comme un affect et comme ce qui circule, ce que je trouve beau et qui me plaît. Mais j'ai l'impression que c'est. Comment dire, que c'est pas tout à fait pareil d'être régi par ces émotions-là que de vraiment décider de. Enfin, je fais le distinguo entre le fait d'aimer et d'être en couple.
D'accord.
Ben okay. Qui pour moi est plus une affaire de choix que simplement être à l'écoute de son ventre. Quoi. Il y a quand même des.
Et moi, je pense qu'il y a un truc de choix dans le sens où, en fait, je pense que tu choisis d'être amoureux de cette personne-là et à partir de là, tu as une réaction chimique qui fait que t'as tout s'active. Mais en fait, j'ai vraiment. Pour moi, il y a des choses, tu sais très bien de qui tu vas tomber amoureux ou de qui tu vas pas tomber amoureux. Et,
c'est
un truc à partir du moment où tu choisis. Les phéromones, mais c'est comme ça que je le vois, mais c'est parce que je le vois vraiment comme un choix, vraiment. Et à partir du moment où tu as décidé que tu as ouvert cette porte à la possibilité que ton cerveau tombe amoureux de cette personne, et d'un coup, paf, ça agit et chimiquement, il se passe un truc.
Pour moi, l'amour, c'est très instinctif. Par exemple, on parle beaucoup d'amour, amour charnel. Moi, ça ne me parle pas trop. Moi, j'ai un amour très. C'est si je sens. Si je le sens pas, il n'y a rien à faire. Oublie. Genre, je peux même pas te... Il n'y a même pas de connexion possible. Donc, pour moi, tu vois, le côté où on ne peut pas mettre de mots dessus, c'est un peu l'instinct qui nous guide en mode... nos deux personnalités ou nos deux instincts sont compatibles, donc vas-y. Mais s'ils ne sont pas compatibles, c'est une sorte de détour pour aller voir ailleurs et trouver une personne qui nous correspondrait mieux. C'est une sorte de meet and match des instincts un peu pour moi.
Oui, mais je veux pas faire la rabat-joie du lieu. On s'en attend avant, là. La rabat-joie de ouf. Mais quand même, comment dire, je trouve ça un tout petit peu. Comment on pourrait dire ça
édulcoré.
Romantisé, dans le sens où, s'il ne s'agissait que de ça, dans ce cas, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait de se lier à quelqu'un que tu ne vois, enfin, quelqu'un qui est complètement hors de ton milieu. Enfin, il y a quand même des reconnaissances qui font que tu vas être attiré par quelqu'un ou pas. Enfin, il y a quand même un. Je trouve ça. Bon, je me trompe. Peut-être, j'espère me tromper de tout mon cœur, mais j'ai l'impression que tu te retrouves vite à être attiré par le même type
d'individus
qui correspondent un peu à ton milieu social. Enfin. C'est rare qu'il y ait comme ça des espèces de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec l'environnement dans lequel tu évolues et que tu. Enfin, j'ai envie de croire que oui.
Parce que c'est difficile que ça se produise, tout simplement.
Pourquoi ?
C'est difficile de rencontrer quelqu'un qui a un milieu complètement différent du sien et du coup de se mettre en couple avec cette personne.
Non, on t'envoie tous les jours dans
Au contraire.
Rue. Par exemple, dans cette table. On ne vient pas tous des mêmes milieux, on ne côtoie pas les mêmes choses, on n'aime pas les mêmes choses. Et je trouve qu'on arrive quand même à discuter assez sympatochement.
Ah, oui, mais on n'est pas en train de vivre une histoire.
Il y a un côté quand même hyper politique dans ce que tu dis, en fait. Dans le truc où l'amour, ça reste comme. Et ça revient sur le reportage qu'on a entendu, c'est que l'amour, il est politique et pourtant, ils disent qu'on ne l'entend pas dans le milieu politique, sauf que le seul endroit où on entend le champ lexical de l'amour dans la politique, c'est le Rassemblement National qui l'utilise pour l'amour de la patrie, l'amour des Français, tout ça. Et c'est le seul endroit, c'est le seul parti qui utilise ce champ lexical-là. Pourquoi ? Là, peut-être qu'on n'a pas le temps de développer là-dessus, mais c'est quand même un gros problème parce qu'on a vu leur score. Peut-être que ça fait partie des pistes à regarder. Est-ce que la question de bienveillance et d'amour, est-ce qu'il ne serait pas important pour gouverner ?
Alors, on a le temps d'en discuter. Juste, on vient d'être rejoint par Eva Rami et Léopoldine HH. Bonsoir.
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 Salut.
Vous pouvez encore dire un mot ?
Mais moi, je vais trop rebondir sur ce point. Mais parce que j'espère que je n'ai pas en addiction dans un truc trop terre à terre, et alors qu'on était dans un. Mais c'est parce que je ne peux pas m'empêcher de. Je n'arrive pas à décorréler la question de l'amour de choses plus matérielles, très concrètes. Pas archaïque en l'occurrence, mais concrète, qui sont où tu te déplaces, qui tu vois, qui tu regardes, ou qui tu ne regardes pas. Mais par rapport à la question de l'amour et du RN, il y a quelques années, je faisais un spectacle qui s'appelait Ilo, au CDN de Caen, et dedans, il y avait un moment où on entendait la voix du rappeur Passy, qui disait, dans une interview, qui disait, en fait, les personnes qui vivent en banlieue ne se sentent pas aimées. En fait, que le fond du problème, c'est qu'ils se sentent désaimés, et qu'à aucun moment, ils entendent nous sommes heureux que vous soyez là et vous faites partie de la nation et vos vies ont du sens et elles comptent et elles sont et vous êtes aimés. Enfin vraiment, il utilisait vraiment le vocabulaire de ce qui crée cette scission, c'est de ne jamais entendre on vous aime. Et ça m'avait frappé parce que c'est vrai que généralement les prises de parole vont toujours être sur un axe pas du tout émotionnel, pas du tout sensoriel. Et là, ça semblait être une évidence. Et du coup, ça me parle à fond ce que tu dis.
Pour revenir juste un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je suis pas totalement d'accord. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je pense pas pareil. Pour moi, au contraire, la différence de classe sociale, de nationalité ou quoi que ce soit, ça peut, au contraire, attirer. Comme on dit, les opposés s'attirent. Hein.
Ça attire dans un cadre où c'est déjà romantisé, je pense, non ?
Tu en as fait l'expérience ?
Par les médias ?
Non, pas forcément. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Ce qui est beau, c'est que ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand. Tu recroises un mec ou une fille dans la rue, tu... Voilà, basta.
Non, c'est pas aussi simple. Hein.
La base d'où on vient, de dans quel milieu on a évolué, c'est les premières années. Après, on est justement dans la maîtrise de sa propre vie. Et donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour ouvrir les champs d'observation en fait, c'est comment on stimule la curiosité de l'autre, justement, la notion de partage, la notion d'ouverture, enfin, toutes ces notions-là, et d'amour, justement. Et l'amour, c'est cet élan vers les autres. Donc, à partir de là, forcément, tout change. C'est-à-dire le rapport à soi, le rapport à ce qui nous attire, et puis la petite variation entre désir et amour, parce que là on parlait aussi de la spontanéité du désir, c'est pas tout à fait le même terrain, mais je pense qu'on peut complètement, tout est possible, et heureusement, enfin moi j'adore me dire ça, que tout est possible.
Complètement d'accord.
Mais alors justement, je voudrais demander à Eva, est-ce que tu pourrais me dire comment tu as traité de la question dans ton spectacle Va aimer ?
Ben, là, je vous entendais parler depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas simple parce qu'il y a une histoire de vibration. Moi, j'ai l'impression de fréquence. Bon, ça, c'est presque chimique, j'ai l'impression. Après, je crois qu'on choisit parce qu'on peut pas dire qu'on est attiré par quelqu'un et par n'importe qui. Je vais penser tout de suite, hein, c'est comme ça, mais parce que je tourne aussi autour. Je me dis quelqu'un qui va être attiré, un adulte qui est attiré par un enfant, il va choisir. Et à un moment, il faut qu'il choisisse. Il se doit de choisir. Donc ça, c'est délicat aussi.
Après, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une histoire d'éducation. Et moi, c'est le prisme que j'ai choisi aussi dans mon spectacle. On parlait de politique, mais j'ai l'impression que ça se passe dans l'éducation. Et que j'ai l'impression, moi, je me rappelle de cours d'éducation civique. Et je me dis, pétard, mais en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on ait presque à l'école, en fait, des cours. Parce que c'est pour moi, l'amour, c'est le respect, en fait. Hein. C'est aussi un... Il y a de la vibration, mais quand j'aime quelqu'un, je le respecte, il me respecte. Il peut être épanoui sans moi, comme tu disais, Elsa. Autonomie, quoi. Et moi, je suis bien... Enfin, pour moi, c'est ça, le pur amour, ça va être... Je ne fais pas partie de son bonheur, mais je suis quand même heureuse pour lui. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud à bosser. Mais je crois que quand tu me demandais comment je l'ai traité dans le spectacle, je pense que c'est ça. J'ai l'impression que ça passe par l'éducation. Et l'éducation, évidemment, familiale, mais même l'école à proprement parler. Mon spectacle, il commence par... je ne sais pas s'il y a des personnes qui voient le bus magique. Enfin, c'était un dessin animé dans les années 90. Et c'était une professeure, elle avait une espèce de gros bus, quoi, et puis le bus transformé, enfin voilà, tu vois. Et en fait, le spectacle commence, en fait, et il y a une visite d'un énorme vagin, qui est inspiré aussi de Nikita Saint-Phalle aussi, parce qu'elle a travaillé avec Tinguely, elle avait fait une sculpture énorme avec une femme enceinte, et on pouvait rentrer par le vagin et aller visiter, il y avait un petit endroit pour de la projection, un endroit et tout ça, donc en fait voilà, je pense que je le traite par l'éducation et la transmission et ce qu'on nous donne, et parce que je pense que selon d'où l'on vient, l'amour qu'on nous a donné, pas donné, mal donné, ça influe forcément sur notre rapport à soi et le rapport qu'on va mettre dans l'amour, quoi, grosso merdo.
Vous pensez que l'amour qu'on, un peu parental entre guillemets, qu'on nous donne durant notre éducation peut influer sur l'amour qu'on va donner nous en retour plus tard?
Ah my god, j'ai une grande impression de ça, ouais. Si tu as manqué d'amour, si donc que c'est dur de s'aimer déjà, d'apprendre à se dire ok, j'en ai pas eu, mais je m'aime quand même. Et forcément, je suis pas psy, hein, mais je pense que forcément ça influe sur ton rapport aux autres. Et si tu t'aimes pas assez, c'est difficile, je pense, d'aimer les autres. J'ai l'impression.
J'avais eu une discussion, encore une fois, avec cette même psychologue qui parlait de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et elle expliquait que c'était différent, que l'estime de soi pouvait être là uniquement si on avait eu de l'amour quand on était enfant, très jeune, que nos parents nous avaient félicité quand on faisait des choses de bien. Et moi, je suis carrément là-dedans, c'est-à-dire que j'en ai aucune d'estime de moi. Maintenant, j'arrive à avoir un peu confiance en moi, mais effectivement, je crois que ça m'a posé problème dans ma relation.
Mais justement, vu où on en est dans la conversation, j'aimerais beaucoup qu'on écoute la chronique que Bertie a écrite. Bertie, c'est quand tu veux.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Alors, l'amour, c'est mon sujet préféré. Je peux en parler pendant des heures. Je suis tout terrain, je suis un 4x4 de l'amour. Je pécho trop. J'ai toujours aimé des gens très différents. Bon, j'espère que mon crush va peut-être pas écouter cette chronique. Pour les vieux, crush, ça veut dire béguin. D'abord, je vais vous raconter l'arbre généalogique de l'amour que je me tape. Je suis pas la petite fille de ma grand-mère pour rien. Elle aussi, elle a des crushs tout le temps. Même à plus de 70 ans, elle est tombée amoureuse d'un vieux rencontré dans un centre de rééducation. Elle est comme moi, mais bon, tous ses amoureux sont morts. Je suis pas la petite fille de mon père pour rien. Il a eu 15 000 copines. Tous ses potes faisaient des vannes là-dessus, même à son enterrement. Et je suis pas non plus la fille de ma daronne pour rien. Elle tombe amoureuse tout le temps, souvent de gros cons. J'ai mis l'exemple. Je pourrais pas passer ma vie à les insulter parce que là, j'ai pas le temps. J'ai une chronique sur le feu. Ma construction amoureuse, elle s'est donc toujours faite dans le chaos. Mais le chaos, pour moi, c'est pas que du négatif. C'est un espace qui se crée à des moments où tout se casse la gueule. Et moi, ma vie, elle s'est cassée la gueule plein de fois. Quand tout s'écroule, ça crée de l'espace. C'est le même principe qu'un trou noir dans lequel il y a plein de choses qui s'engouffrent. Le chaos, c'est parfois un espace dans lequel tu peux mettre tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et dans cet espace, bah, moi, je fais rentrer de l'amour. Et j'adore tous mes amours. Parce qu'ils sont multiples, qu'importe le genre. Tout ce qui compte, c'est les allumettes au fond des yeux. Et à ne pas confondre avec le feu d'artifice dans le ventre, ça, c'est un red flag. Je vais vous faire une petite étude du red flag, un portrait d'un zinzin que j'ai aimé. Appelons-le Hubert. C'est quelqu'un de très blessé. Un ego énorme, beaucoup d'addictions. Et ça, je ne l'avais pas capté tout de suite. La trentaine, cheveux longs, moustache, un crépier avec un petit côté artiste vachement mon type. On part en vacances dans mon camion, on rigole bien sur la route de la Drôme, mais dès le lendemain du départ, l'angoisse. Il a plus de weed, plus de coke. D'un coup distant, méchant, humiliant. Il me reproche d'avoir mal rangé les affaires dans le coffre, et c'est le début de la descente aux enfers. Je me sens trop mal pendant toutes les vacances,
Même mon corps me parle. Dos bloqué, hypervigilance. Au retour, il me propose de pas mettre le GPS. Et évidemment, je prends la mauvaise décision. On vit un enfer dans les bouchons. Puis, coincé dans la zone industrielle de Saint-Étienne, je pleure. Je lui demande de reprendre le volant, il refuse. Je lui demande de mettre le GPS, il refuse. Tu m'as mis dans cette merde, tu m'en sors. Ah, en plus, j'ai la bave de mon chien qui coule sur mon épaule. Le ciel est gris, rien ne va. On s'arrête dans un McDo, je me griffe le visage. Je me sens prise au piège. Finalement, on arrive. Je laisse passer quelques semaines. Et un jour, je le tège. Tu me fais peur, t'as de l'emprise sur moi. Dégage de ma maison, connard. Il me rit au nez et il se casse. Cette rupture, ça a marqué un des premiers actes d'amour à moi-même. J'ai exigé d'être respectée et j'ai pris ça comme base de tout pour toute la suite. D'ailleurs, je voudrais remercier un groupe de meufs de Belle-Île, parce que quand je leur ai parlé de ça, elles m'ont cru. Elles ont écouté ce que j'ai vécu, elles m'ont soutenue et elles m'ont comprise quand je vous disais que du chaos, ça pouvait émerger du sublime.
Merci, merci, merci vraiment.
Est-ce que tu peux nous rappeler le titre que tu as donné à cette chronique ?
Amour et chaos.
Alors, Léopoldine, parce que ça sonne vraiment comme un titre de chanson. Je suis désolée, je me tourne vers toi.
Je voulais te parler parce que c'est là et parce que je veux l'avoir dit au moins une fois dans ma vie. Et puis comme ça, après, on passe à autre chose. Toi, tu vois là, tu reviens. Après, tu vas où tu veux et puis tu oublies tout ça. Et moi, je me libère de ça. Je me libère de moi. Je me libère de moi. Donc voilà, ça va prendre juste 5 minutes. J'en ai pour 5 minutes. Juste te dire, et puis je pense que c'est important. Ça va ?
C'est super.
Excuse-moi, c'est comme ça, t'es pas obligée de répondre quoi que ce soit. Moi, je voulais pas le dire, en fait. Moi, je voulais rien dire, je voulais rien dire. Je meurs d'émotion pour toi. Je meurs d'émotion. C'est ça, c'est exactement ça. C'est toi que j'aime, je t'aime. Quand je t'aperçois, je sens que monte en moi une petite tache claire. Toujours, toujours, toujours plus légère. Toujours, toujours, toujours plus légère. Ma
encore avec nous quelques minutes. On est censé être dans une sorte de contre-soirée un peu étrange. N'hésite ouais. pas à faire du son et du bruit quand tu veux et quand tu le sens.
Beaucoup quelqu'un... d'émotions autour de la table d'un voilà. coup. Est-ce que quelqu'un veut parler sur ça ?
Oui, je voudrais parler sur la chronique de Bertie. C'était très touchant. C'est une histoire que je ne connaissais pas personnellement. Donc, merci de nous l'avoir partagée.
Ouais, et merci. Je suis
bravo.
La pro des histoires de merde en même temps. Des histoires sympas aussi. Hein, mais... Ouais,
mais une histoire de merde qui t'a servi à avoir des meilleures histoires plus tard.
Ouais. Bah maintenant, je sais que je vois un petit peu. Tu vois, je parlais de red flags. Maintenant, les red flags, je les vois un petit peu. Tu vois, genre quand je rencontre des gens, quand des mecs m'approchent, quand tout ça, je m'en sers un petit peu.
je m'en sers un peu pour me dire, waouh, toi tu m'approches pas, toi tu m'approcheras pas.
Mais de toute façon, on a une liste de red flag et de green flag qu'on fait tous les jours. En fait, green flag et red flag, pour juste expliquer, c'est vraiment quelque chose qui nous stoppe directement. Le red flag, ça nous stoppe directement chez quelqu'un, et le green flag, c'est justement go, let's go, on y va.
Mais c'est quoi vos green flags du coup ? À tout le monde autour de la table,
un green flag. Un green flag,
c'est complexe. Qui veut commencer ? Ouais. Ça, c'est complexe.
Mais il y a parfois des green flags qui deviennent raides.
Hein. Parfois, on peut pas trop contrôler ça, et ça, c'est pas mal de laisser.
Au bout de plusieurs années de vie.
Ouais. Ou même. En tout cas, des expériences qui font qu'on en arrive à ta conclusion, de croire que c'est bon pour nous et qu'on y va, et puis d'un coup, la couleur vire, et puis on se dit, ben non, en fait, plus jamais ça. Ça, c'est une bonne recette aussi, ce qui n'empêche pas de vivre les choses. Je pense que c'est comme la notion d'échec et tout ça, de s'y confronter, c'est ça aussi qui donne des forces ensuite. C'est par élimination, en fait, qu'on se dit, tiens, je l'ai vécu, ben, en fait, je l'ai vécu qu'une fois et ce sera très bien qu'une seule fois. En fait, c'est ça qui constitue, à un moment donné, de préciser et d'aiguiser, en fait, le type de relation ou le type de connaissance ou d'énergie des gens. Parce que c'est ça. Il y a des gens qui nous pompent énormément d'énergie, qui nous vampirisent, et puis d'autres, au contraire, qui nous aident à la renouveler, à la rendre aérienne, limpide, porteuse.
Après, il y a justement là, moi, c'est une chronique qui parle notamment d'une des relations toxiques que j'ai eues, mais enfin, là, vous avez la fin de la relation, vous n'avez pas le début qui était tout idyllique, et souvent, c'est ça le truc, c'est que green flag, red flag, ok, c'est un petit précis de comment est-ce qu'on peut essayer de se protéger quand on rencontre quelqu'un, mais souvent, ça vient après dans la relation. C'est le principe de pas mal de relations toxiques aussi.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une relation, ça se fait à deux, et que parfois, on peut se dire aussi, c'est l'autre, en fait, qu'est-ce que soi, dans quelle mesure on a participé, dans quelle posture on s'est mis pour que cette chose advienne. Et c'est là où il y a un travail après sur soi très important de décortiquer, de l'estime de soi, c'est un sujet très 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 important. Il y a des textes magnifiques et vraiment, moi je les ai lus à certaines périodes de ma vie, de Christophe André. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, mais en tout cas sur l'estime de soi, il a écrit des bouquins formidables avec des exemples à la clé, c'est formidable. C'est des lectures qui font du bien.
Ok, chronique ouais, très très émouvante. Non, mais franchement, très poignante. Non, mais c'était... moi, je me suis mis à ta place, ça m'a fait trop de peine. Je suis content que ça t'ait servi, que maintenant, grâce à ça, tu puisses dénicher un peu plus les... Tu peux pas le dire, on est à la radio.
Les gens gentils.
Ouais, voilà.
L'important, c'est d'être gentil. Ouais, voilà, tu demandais, c'est quoi les meilleurs green flags ? C'est si tu vois que quelqu'un est profondément gentil. Ouais, c'est ça qui m'attire chez les gens.
Moi, je sais que... Mon green flag que je cherche, et je ne sais pas si je vais le trouver, c'est une personne qui va m'apporter énormément de paix. C'est-à-dire que je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à me préoccuper de quoi que ce soit, juste je sois en paix. Genre, quand on dit ça, ça paraît grave idéaliste un peu, mais la paix, genre, c'est le meilleur truc que tu peux me donner.
Mon green flag, un des trucs que je regarde un peu en premier pour voir si c'est une bonne personne ou pas, c'est la façon dont il parle à sa mère. Et la façon dont il parle aux autres, par exemple un serveur au restaurant, quelqu'un dans un sans-abri, quelque chose comme ça, s'il calcule pas, si machin, red flag direct, ça dégage. C'est hyper important pour moi.
J'ai envie de demander à Léopoldine avant qu'elle parte parce que c'est dans 3 minutes. Est-ce que tu as ce système de red flag, green flag ou pas, toi ?
Pas du tout. Je suis plutôt du genre à aimer être surprise. En même temps, je suis d'accord que c'est un travail. Je trouve que c'est une question très vaste. Je peux juste me permettre de vous citer un poème qui fait comme ça, qui essaye de définir le lien entre l'amour et l'intelligence. Est-ce que l'amour rend intelligent, peut-être ? C'est plus un état d'être, c'est pas quelque chose. C'est vraiment un état d'être plus qu'un état de pensée, de se regarder, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi. Je me sens si tôt, si tal, si tôt, si tal, si total. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens si total, séparé de vous. Être unique et séparé n'est pas moins merveilleux qu'être infini. Être unique et séparé n'est pas moins merveilleux qu'être infini.
je vois, je ici, je vois celle ici. Ne peut pas, ne pas, ne où je suis, vous tant je sonne. Je perds, 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 je tends, je sonne, ne m'entends. Personne ne m'entend, vous ne m'entendez pas. Là où je suis, personne ne m'entend, vous ne m'entendez pas. En mais en en en. En en mais en voix, en mais en sage. Envoie message et rien, je suis. Et rien ne passe, ne passe, ne elle, 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 ne belle, ne ma belle passe, ne rive, 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 ne rive pas, je rive, non. Je n'arrive pas à dire mon nom. Je n'arrive pas à dire mon nom.
Voilà, tentative.
Merci. Merci Léopoldine et merci à Elsa Lepof d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.
Vous devez partir là.
Oui, je vais aller me préparer pour Écube. Et en parlant d'amour, c'est un autre moteur d'amour, mais on parlait d'action au tout début, l'action d'aimer et l'action de... Ben voilà, il y a des amours qui sont des luttes et c'est un bon moteur pour...
L'amour familial.
Oui, l'amour et puis l'amour où on n'a pas le choix, justement, que, en fait, quand le choix s'impose parce qu'on va à la défense des plus démunis, des plus isolés, des plus fragiles. Et c'est notre devoir, en fait, à nous tous, quand on gagne des forces au fur et à mesure de la vie, d'être protecteur et d'être moteur et source d'élan et de force. Quoi. Voilà. Ah bah donc je vais aller écuber.
Merci beaucoup.
À vous de l'invitation.
Et tout de suite, on va écouter une capsule sonore qui a été créée par notre partenaire Campus, qui chaque jour sort enregistrer des sons dans Avignon. Alors on écoute ça tout de suite.
Cadavre exquise. Capsule sonore décomposée depuis l'extérieur des salles de théâtre du Festival d'Avignon.
Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne sut jamais... Il nous enseigne à l'être.
L'amour est un oiseau rebelle qui n'a jamais, jamais connu des lois. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. La la, la la, la la, la la. La 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 la.
On peut dire oui, oui je calme, oui j'espère, oui je tremble, oui j'aime. Oh, on n'est pas obligé de faire semblant.
Alors là, on est censé aller un peu plus loin dans un exercice, dans cet exercice de la contre-soirée. En attendant, on va dire au revoir à Noah et Louis. Tu veux rester avec nous ou pas?
Merci.
Je peux rester un petit peu.
Tu veux rester un petit peu, ok. Et Noah, tu veux rester ou pas?
Non. Pourquoi le pas? Quoi, t'as dit quoi?
J'aime pas ta vibe.
Vas-y, toi.
On aimerait trop que tu restes à notre contre-soirée improvisée, mais tu dois aller toi aussi écuber.
Bah, merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je file alors.
Merci Sephora.
Merci. À bientôt.
À bientôt. Alors là, on arrive à la dernière partie de cette émission tentative. Je pense que tu peux un peu plus... C'est comme tu veux. En fait, l'idée, c'était un peu d'essayer de savoir comment on arriverait vraiment à se parler juste entre nous, mais face à un public et de faire semblant d'être à l'aise.
Bien sûr.
Donc, tu te places à
tout le monde comme tu veux. Je vais essayer de faire abstraction.
Alors là, il nous reste 2-3 minutes. Là, c'est le moment où genre, il est à peu près 6h du mat.
Ouais.
Un peu crevé, et on va te poser un peu des questions cons si on en a.
Et qu'est-ce qui sort en général dans ces contre-soirées à 6h du matin? C'est les gens à 6h du matin qui te sortent, par exemple, une jolie histoire d'amour qu'ils ont vécue et dont ils pourraient avoir envie de parler, ou l'inverse, je ne sais pas. C'est comme toi. Est-ce que toi, tu te sens de nous raconter quelque chose comme ça, par exemple?
De raconter une histoire d'amour ou quelque chose?
Que t'aurais vécu.
Ou un truc croustillant.
Ouais.
Un truc croustillant, tout en étant intime, mais écouté. Complicado.
Une anecdote personnelle. Ouais. Toi, t'as plein de trucs à dire, Bertie.
Mariama.
En vrai, j'ai une vie pas. Je fais pas trop de bêtises ou quoi. Donc si je commence, ce sera un peu nul, quoi. Qui veut vraiment commencer?
Je pourrais parler peut-être de. C'est intéressant parce que c'est ce qui m'a traversé là il y a pas longtemps. C'est la jalousie. Je trouve ça assez intéressant parce que je trouve ça. Enfin. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'impression que ça vient. Mais on en revient toujours à la même chose. Hein. J'ai l'impression que si tu n'as pas confiance en toi, c'est dur d'avoir confiance en l'autre. Et pourtant, j'aime la personne avec qui je suis, mais je travaille vraiment la jalousie. Et ça me pose vraiment question et je me dis, on est vraiment sur un truc de... Et c'est pour ça que je me dis, on a un pouvoir de créer des fictions... qui ouvre ce champ-là de la propriété, quoi, tu vois. Et putain, et je me dis, je travaille à la déconstruction, je vois un psy, je fais des spectacles sur l'amour, j'essaye de quand même, je me dis, tu vois, de me poser des questions et d'être le plus ouverte. Mais malgré ça, je me dis, il y a un taf sur la jalousie qui est intéressant, je me dis, t'as beau avoir de belles... Enfin, il y a tout un truc à déconstruire, et ça, ce serait intéressant. J'aimerais parler avec des personnes qui arrivent avec cette chose-là, à travailler sur cette chose-là, et à ne pas... Et à aimer l'autre sans jalousie, à accepter complètement. Mais en fait, on parle peut-être même là du polyamour, peut-être, d'une certaine façon. Bon. Moi, non ?
Trop de trucs à dire là-dessus.
Ouais. Donc, c'était pas très croustillant, mais en tout cas, oui, la jalousie me questionne.
Vas-y.
Mais est-ce que ton partenaire, il te met en sécurité émotionnelle ?
Ah oui, non, c'est moi qui me mets en totale insécurité comme une grande. Je suis avec quelqu'un de très rassurant. C'est ça qui est un peu désarmant, quoi. Il est rassurant, je suis pas... Mais je suis dans un... En effet, si on est dans... J'adore cette intimité qui n'est pas du tout intime. Mais en effet, je pense que ça... Il y a un rapport, ouais, avec l'amour à soi. Et je pense que la société nous met toutes dans un truc de comparaison. Et je me dis, putain, s'il y a un truc qu'il faut qu'on bosse, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est le truc à la comparaison à l'autre. Et je pense que ça nous nique tout. C'est-à-dire que vraiment de se dire, ah putain, elle est plus machin que moi, elle est plus ça, elle est plus... Et ça, pétard, mais c'est... Et ça va m'arriver même avec des amis, où d'un coup, je me dis, tiens, je ressens un truc là, mais je l'aime. Ah, putain, ça me déclenche un truc. Et je me dis, mais où ça... Qu'est-ce que... Donc ouais, mais je pense que la société en est un peu responsable aussi. J'ai l'impression.
Bah, je pourrais rajouter un dernier truc. Enfin, je veux juste rebondir. En fait, moi, la jalousie, c'est pas du tout un truc que j'expérimente au quotidien. Je suis jamais jalouse dans mes relations, mais c'est vraiment un truc d'estime de soi parce que je suis vraiment persuadée que je suis la meilleure et que, et que c'est incapable qu'on me trompe ou quoi que ce soit parce que ce serait trop bête. Ouais. Et dans tous les cas, si c'est le cas, ça dégage.
Mais putain, mais je t'adore et je vais prendre exemple sur toi. Mais c'est vrai, tu vois, c'est ça, c'est un truc de confiance. De se dire que l'autre, à un moment donné, bah, il peut partir avec n'importe qui sera mieux que moi, tu vois.
Au pire,
il n'y a pas mieux que toi.
Eh ouais, non, mais tu vois, je pensais ça à bosser. Donc voilà, merci. Vous mettez une petite séance de psy ouverte et publique. Et voilà, ouais.
Peut-être aussi une des solutions, ça peut être de décider de donner beaucoup d'amour aux autres femmes dans... Mais en fait, le truc, c'est que moi, il y a des moments où je me suis dit, je suis jalouse, et développer ce truc-là de sororité, de dire, ok, mais en fait, pourquoi ? Parce que je la trouve. Non, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas la prendre elle dans le fait qu'elle est unique ? Et le fait que pourquoi est-ce que je suis jalouse, c'est des trucs qu'elle a pas. Ouais, mais pourquoi je pourrais pas me dire, putain, c'est génial qu'elle soit comme ça. Et moi, je suis différente, mais mes trucs à moi, ils sont géniaux. Et ça m'a vachement aidée dans ces moments-là.
Bah, je suis complètement d'accord avec toi parce que ça a pu m'arriver il y a pas longtemps. Et en effet. Je me suis dit, et en fait, c'est vraiment ça. Et en plus, j'ai l'impression de travailler ça aussi, d'être dans un rapport vraiment de sororité et d'amour. Vraiment, ça se travaille, mais je pense que je l'ai, mais ça se bosse aussi. Et c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est ce que je me suis dit, et je me suis dit, ah, mais peut-être, en fait, c'est à moi qu'elle plaît. Mais tu vois, dans moi qu'elle plaît, en fait. C'est moi qu'elle vient réveiller quelque chose dans sa façon d'être, c'est à moi qu'elle vient réveiller quelque chose et c'est intéressant, ça dit un truc de moi et d'être que dans la et de travailler à cet amour là mais je pense ouais ce truc là de la comparaison, il est, et surtout dans les métiers, en étant comédienne aussi, tu vois, on te met dans des écoles et bam, et dès le début on te met en compète, on te dit qu'il y aura pas de la place pour tout le monde. Et j'ai beau et vraiment je dis ça tout en bossant et je pense pas être je vais me le faire à moi, mais la personne ne s'en doutera pas une seule seconde. C'est une torture interne, tu vois, mais je pense que c'est très juste ce que tu dis. C'est d'envoyer de l'amour un maximum et de se dire en effet, ouais, elle est géniale, quoi. Et alors, en fait.
Merci Eva.
Bah, de rien.
Bah, on constate que c'était décidément très dur d'essayer de construire cette contre-soirée en plein jour face publique, ouais. Mais on a tenté. C'était la cinquième émission de À la jeunesse, les micros. Maintenant, on va laisser le micro à Idriss, qui a composé un morceau comme chaque soir. Et on vous retrouve demain pour la prochaine. Merci beaucoup.
À demain.
Merci beaucoup.
À faire, je bois comme un drogué. Le manque d'argent nous a bloqué. Petit de moi, il se moquait. Dis-moi la vérité, je suis pas parfait, mais je pense que ça, je l'ai mérité. Ils me font tous galérer. Peut-être que mon cœur est juste mal garé. Des allers-retours à la gare. Je deviens parole, faut que je m'aligne ma garo. Ils me font tous galérer. Peut-être que mon cœur est juste mal garé. Des allers-retours à la gare. Je deviens parole, faut que je m'aligne ma garo. MJ Idriss, pourquoi t'es comme ça? J'ai dit laisse tomber, pardonne-moi. Des fois je me regarde dans le miroir, je me reconnais plus. Ouais c'est noir. Elle me dit Idriss, pourquoi t'es comme ça? J'ai dit laisse tomber, pardonne-moi. Des fois je me regarde dans le miroir, je me reconnais plus. Ouais c'est noir.
Merci.
C'était À la jeunesse les micros, un projet de Making Waves et du Festival d'Avignon. Avec aujourd'hui à l'antenne, Linda Swakria, Noah Dimenza, Bertie Gadeau, Clément Chaise, Mariama Sedi, Louise Bréon. Les chroniques étaient signées par Bertie Gadeau, Mariama Sedi et Idriss Vivard. Le reportage par Idriss Vivard et Miguel Brunebeau. À la technique, Renaud Lupovici et Basma Nasser. Et à la rédaction de cette première émission, Miguel Brunebeau. On se retrouve pour notre sixième émission qui aura pour thème l'héritage et dans laquelle on recevra Ferdinand Barbet, metteur en scène de L'Art de ne pas perdre, Thiago Rodriguez, metteur en scène de Écube, pas Écube, Clément Viktorovitch, politologue, auteur et chroniqueur, et deux artistes, Mélanie Bousquet et Lucie Monti-Brunel. Vous pourrez retrouver l'ensemble des projets de Making Waves sur notre site www.mkwaves.org. À mardi!